Psalm Bible. On vous a donné les notes à la porte avec presque tous les versets écrits là-dessus que nous allons lire ensemble. Donc prenez soin de vos notes, votre Bible. On va dire que c'est parce que la Bible nous dit que ce qu'on dit avec la bouche et ce qu'on croit du cœur s'accomplira. Donc on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. La vérité vous affranchira. La semaine passée, nous avons commencé ce message et cette série, et ça tombait bien parce que, comme on a parlé la semaine passée, le film de Code Da Vinci venait de sortir le 19 mai ici en Amérique du Nord, et il y avait toutes sortes de choses que M. Dan Brown a dit dans son livre et qui sont racontées encore dans le film par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport au Nouveau Testament. Et on a parlé pas mal à fond hier, la semaine passée, pas hier, mais la semaine passée, on a vu les faits, on a vu les fables, on a parlé de la foi. Et si vous n'étiez pas là, je vous encourage fortement d'aller sur notre site web www.lavecomblée.com et vous allez pouvoir avoir accès à tous les messages du dimanche matin depuis un bon bout de temps. Et écoutez ce message et prenez des notes, ça va vous aider beaucoup. Sinon, on a aussi des cassettes audio que vous pouvez procurer ici. L'Internet est gratuit, par exemple, donc je vous encourage à le faire. Parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui à faire une révision de qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée. Qu'est-ce qu'on a vu, essentiellement, c'est que la plupart de qu'est-ce que M. Brown dit, même s'il dit que le livre, c'est un roman, c'est basé sur les faits et la vérité, en réalité, on a vu que c'est pas vrai. Il y a des choses là-dedans qui sont complètement hors contexte et que, dans la plupart des fois, il est complètement dans le champ des patates, comme on dit, n'est-ce pas? Mais une chose qu'on veut aujourd'hui, on veut ouvrir une parenthèse dans toute cette histoire de la vérité vous affranchira. On va parler de la vérité concernant la vérité. Si vous avez vu les annonces, les publicités pour le film suivant, il y a la phrase « chercher la vérité » parce que M. Brown, il veut qu'on croie que l'Église nous a séduits depuis des siècles, que le Nouveau Testament, c'est de la pure invention. Il veut qu'on croie que Jésus-Christ n'est pas vraiment Dieu, mais c'était un mortel, que les premiers croyants ne croyaient pas qu'il était Dieu non plus. Et il veut qu'on croie qu'en réalité, il s'est marié avec Marie-Madeleine, qu'ils ont eu des enfants et que ses descendants sont encore en vie dans le sud de la France aujourd'hui. Toutes sortes de choses. Et puis, il dit « Cherchez la vérité ». Regarde quelqu'un a dit « chercher la vérité ». Mais avant de chercher la vérité, il faut qu'on réponde à plusieurs questions. Moi, je suis bien d'accord avec cette idée de chercher la vérité. Il faut qu'on la cherche. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la vérité concernant la vérité. Et pour cela, on va répondre à plusieurs questions. Vous savez que Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 31, c'est dans vos notes, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et on a besoin d'être affranchi, on a besoin d'être libéré. Si la vérité nous affranchit, ça veut dire forcément que les mensonges nous rendent esclaves, n'est-ce pas? Quelqu'un qui ne connaît pas la vérité est en danger. Quelqu'un qui a cru aux mensonges est en danger aussi. Mais pour avoir la vérité sur la vérité, il faut se poser plusieurs questions. Et la première question qu'il faut se poser, c'est la question que Pilate a posé aussi. Quand Jésus était devant lui en Jean chapitre 18, verset 37, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Ça, c'est la question primordiale aujourd'hui. Qu'est-ce que la vérité? Regarde quelqu'un et dit, qu'est-ce que la vérité? Et Pilate a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Donc, il essayait de dire un peu la vérité. Il savait dans son cœur que Jésus était innocent. Mais la question se pose, qu'est-ce que la vérité? Et aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont confus concernant la vérité. On va dans les écoles, dans les universités, dans les écoles secondaires, et il y a beaucoup de gens qui vont même dire que, dans le fond, personne sait. Personne peut dire qu'il connaît la vérité. La vérité absolue, ça n'existe même pas. Ce qui est vrai pour vous, c'est peut-être pas forcément vrai pour moi. Et ce qui est vrai pour moi, c'est pas forcément vrai pour vous. Vous, vous dites que Jésus est la vérité. Oui, c'est correct pour vous, mais quelqu'un d'autre croit que c'est Mohamed. Mais ça, c'est vrai pour lui. Vous comprenez? Ça, c'est le monde qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? J'invente pas ces choses. Ça, c'est la pensée de l'âge. Aujourd'hui, en 2006, c'est vraiment comme ça que nos enfants sont enseignés. Et aujourd'hui, on va répondre à cette question. C'est quoi la vérité? Premièrement, on a juste à ouvrir le dictionnaire Larousse, et on voit que la définition de la vérité, c'est la connaissance ou expression d'une connaissance conforme à la réalité. Tout le monde dit la réalité. Donc, quand on parle de la vérité, on parle de la réalité. On ne parle pas d'une invention. On ne parle pas d'une opinion. On ne parle pas d'une idée humaine. On parle de la réalité. Amen? Et laisse-moi vous dire, la réalité existe. La réalité, des fois, est visible. Mais des fois, la réalité est invisible. Comme la définition de la foi en Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, dans la parole vivante, que la foi, c'est une ferme réalisation des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont quand même réelles, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez voir l'oxygène dans l'air aujourd'hui? C'est réel, c'est la réalité. L'oxygène existe. Et aujourd'hui, on va parler de cela. Cette caractéristique de la vérité. Et c'est important. Je veux que vous écoutiez comme il faut parce que je crois que qu'est-ce que vous allez voir, ça va vous aider à découvrir la vérité pour vous-même et ça va vous aider à défendre la vérité avec les autres aussi. Cette caractéristique de la vérité. Numéro un, la vérité n'est pas relative. Mais elle est absolue. Tout le monde dit absolue. Le monde aujourd'hui a vraiment de la misère avec ce concept. Qu'on peut avoir les vérités absolues. Ils disent que ça ne se peut pas dans certains domaines. Il y a certaines personnes qui disent oui, on peut avoir les absolues en ce qui est visible et concret, mais on ne peut pas avoir une vérité absolue concernant notre foi, par exemple, ou concernant la religion, ou concernant Dieu. Là, il est impossible d'avoir une vérité absolue concernant Dieu. Et on va vous montrer aujourd'hui que ça, c'est faux, qu'il y a des vérités absolues, même concernant Dieu. Et c'est quoi une vérité absolue? Pourquoi est-ce que c'est absolu? C'est parce que la vérité s'applique à tout le monde. En tout lieu, et pour tout temps. Amen? C'est bien important. Et je pense que là où on a de la difficulté, parce que quand on parle de la vérité absolue, on peut être, on peut être dogmatique. On dit des fois que, oh, c'est négatif d'être dogmatique. Non, c'est pas négatif d'être dogmatique quand c'est la vérité absolue. Moi, je suis dogmatique sur le fait que si tu ne respires pas, tu vas mourir. Et je suis dogmatique là-dessus. Oh, mais regarde, vous n'êtes pas trop ouvert d'esprit, hein? Vous êtes pas mal fermé. Oui, je suis très fermé. Si vous ne respirez pas, vous allez mourir. Je suis très, très dogmatique. Et c'est vrai, et c'est absolu. Le problème, c'est qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas absolues. Comme, par exemple, on peut avoir une vérité absolue et on peut avoir une interprétation de cette vérité, une déduction tirée de cette vérité. On peut avoir aussi les normes culturelles et on peut avoir les préférences personnelles. Moi, je ne peux pas être dogmatique en disant, par exemple, que le meilleur restaurant en ville, c'est telle place, parce que ça, c'est mon opinion, n'est-ce pas? Il y a d'autres choses que c'est vraiment une question de culture, d'opinion. Mais quand c'est une vérité absolue, la vérité s'applique à tout le monde, en tout lieu et pour tout temps. Amen. Deuxième chose concernant la vérité, c'est que tout ce qui contredit la vérité est faux. Amen. On ne peut pas avoir deux vérités s'opposant. Il est impossible. Si une chose est vraie, une autre personne dit le contraire, exemple 2 plus 2 égale, ça c'est faux. 2 plus 2 égale, est-ce que vous êtes pas mal dogmatique là-dessus? Vous êtes fermé, hein? Come on, c'est l'an 2006, il faut être ouvert d'esprit, n'est-ce pas? Les choses ont changé. 2 plus 2 égale 4. Et si quelqu'un vient me dire que 2 plus 2 égale 5, ça contredit la vérité absolue, donc qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est faux! C'est pourquoi on peut dire, et je ne veux pas offenser les gens si vous n'êtes pas encore convaincus que Jésus est le Fils de Dieu, mais quand la Bible dit que il n'y a aucun autre nom par lequel un homme doit être sauvé que le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une vérité absolue. On va découvrir dans les semaines à venir que c'est une vérité absolue que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Donc, c'est pourquoi quelqu'un qui dit, mais tu sais, il y a d'autres moyens de se rendre au ciel. Il y a d'autres personnes qui ont choisi Mohamed, exemple, ou Bouddha. Quelqu'un qui dit que Bouddha, c'est un autre chemin, ou que Mohamed, c'est un autre chemin. Si qu'est-ce qu'il dit contredit la vérité absolue, donc forcément, qu'est-ce qu'il dit est faux. Et là, j'ai l'air vraiment d'être un religieux fermé, n'est-ce pas? Oh. Mais laisse-moi vous dire une chose. Je vais vous montrer. Croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le seul et unique moyen d'aller au ciel parce que je le dis. Je vais vous donner beaucoup, beaucoup d'évidence aujourd'hui un peu, mais surtout dans les semaines à venir. Et vous allez pouvoir prendre votre propre décision et vous allez voir que la vérité, c'est la vérité. Amen. Donc, numéro 3, la vérité est découverte et non pas inventée. J'invente pas la vérité. Je découvre la vérité. Les gens n'ont pas inventé l'électricité, ils ont découvert l'électricité, n'est-ce pas? L'électricité, c'était une réalité qui existait. Il y a beaucoup de choses que les scientifiques sont en train de découvrir, mais ce n'est pas eux qui les ont inventées. Mais il y a certains scientifiques qui essaient d'inventer des choses et de les vendre à nos jeunes aussi. On va parler de ça une autre fois aussi. Donc, elle existe indépendamment de notre connaissance, la vérité. Numéro 4, la vérité est transculturelle. Il y a des personnes qui vont dire que, oh, mais tu sais, ça c'est ton culture. Vous autres, vous croyez en Jésus. Mais en Inde, par exemple, la plupart des personnes vont croire, ils vont être hindous, ils vont croire à des milliers de dieux. Ça fait partie de leur culture. Donc, qu'est-ce qui est vrai pour vous, c'est correct, mais ça fait partie de votre culture. Mais laisse-moi vous dire, si vous ne respirez pas au Québec, vous allez mourir. Mais si vous ne respirez pas en Inde, c'est correct, parce qu'ils ont une culture différente. Non? Qu'est-ce qui est vrai? C'est la vérité. Quand on parle de la vérité absolue, c'est transculturel. Peu importe que vous soyez en Inde, en Chine, en Afrique, au Québec, aux États-Unis, il faut respirer pour vivre. Et que vous soyez en Inde, en Afrique ou n'importe où, il faut croire en Jésus pour être sauvé. Amen. La vérité est transculturelle. Et je sais que si j'avais certains professeurs d'école aujourd'hui, déjà, ils seraient un peu fâchés avec moi. Mais je veux vraiment que vous restez ouverts d'esprit parce qu'on va voir les choses qui vont vous aider énormément aujourd'hui. Numéro 5, la vérité ne change pas. La vérité ne change pas. Oui, mais on est 2006, les choses ont changé, non? Ils avaient besoin de respirer il y a 2000 ans, ils ont besoin de respirer aujourd'hui. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, n'est-ce pas? Jésus a dit, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Numéro 6, nos croyances ne peuvent pas changer la vérité. Peu importe qu'est-ce que vous croyez. Des fois, on va présenter la vérité à quelqu'un et ils vont dire, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Ça ne change pas le fait que c'est vrai. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. OK, c'est correct. Il y a des personnes qui croyaient à un moment donné que le monde était plat, n'est-ce pas? Est-ce que ça a changé? Est-ce que le monde est devenu plat? Le monde a toujours été un globe terrestre, n'est-ce pas? Et peu importe, même si tout le monde sur la planète croit que c'est plat, ça ne change pas le fait que c'est rond. N'est-ce pas? Et même si tout le monde sur la planète ne croit pas que Dieu existe ou personne ne croit que Jésus est le Fils de Dieu, ça ne change pas la vérité que Jésus est le Fils de Dieu. Donc nos croyances ne changent pas la vérité, mais la vérité peut et devrait changer nos croyances. Amen. Numéro 7, la vérité n'est pas affectée par l'attitude de ceux qui la croient. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, « Ah, ben, moi, je ne crois pas en Jésus parce que moi, je connais un tel, lui, il se dit chrétien et lui, il n'est pas un bon exemple du tout. Moi, je vis mieux que lui. Moi, ma vie est beaucoup meilleure que la vie de cette personne-là et lui, il va à l'église, lui, il se dit chrétien, donc moi, je ne crois pas en Jésus. » Laisse-moi vous dire que l'attitude de celui qui croit la vérité ne change pas la vérité. Je trouve ça bien dommage, par exemple. Parce que c'est vrai que ça peut être une pierre d'achoppement et ça peut empêcher les non-croyants de croire en Jésus. Et on devrait faire notre possible, Église, d'être un bon exemple et d'être la lumière et le sel, n'est-ce pas? Mais quand même, je veux vraiment souligner le fait que la vérité n'est pas affectée par l'attitude de ceux qui la croient. Quelqu'un qui a une mauvaise attitude, mais qui croit qu'il faut respirer pour vivre, ça marche quand même, n'est-ce pas? Oh, mais moi, je ne crois pas, hein, parce que le gars qui respire à côté de moi, il a une mauvaise attitude. Donc moi, j'arrête de respirer. Vas-y. Vas-y, essaie. Donc c'est un peu le monde qu'on vit aujourd'hui est tellement infecté par ces choses. Il y a tellement des phrases qui sont dites couramment aujourd'hui, qui sont acceptées comme la vérité. Et c'est pourquoi j'ai mis dans vos notes en dessous de numéro 7 qu'il faut apprendre à dévoiler les phrases autodestructeurs. Je vais vous parler de c'est quoi une phrase autodestructeur. Une phrase autodestructeur, c'est une phrase que si on tourne la phrase sur lui-même, ça se détruit. Exemple, j'ai mis quelques-uns. Personne ne peut connaître la vérité. Est-ce que vous avez entendu cela? Personne ne peut savoir à 100% la vérité. Personne ne peut être sûr que Jésus est le Fils de Dieu. Personne ne peut connaître la vérité. Ah oui? Et comment est-ce que tu sais qu'on ne peut pas savoir? Est-ce que tu connais ça absolument, que personne ne peut connaître la vérité? Est-ce que vous avez suivi la logique? Les gens vont dire catégoriquement, il est impossible pour quelqu'un d'être convaincu que quelque chose est vrai. Ah oui, mais toi, tu dis que tu es convaincu absolument que qu'est-ce que tu viens de dire est vrai. Pensez à ça. Il y a d'autres phrases autodestructeurs. C'est vrai pour vous, mais ce n'est pas vrai pour moi. OK? Utilisez cette même logique sur vous-même. C'est vrai pour vous, mais c'est pas vrai pour moi. OK? Qu'est-ce que tu viens de dire, c'est juste vrai pour toi? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu viens de dire, c'est pas vrai pour moi. Pensez un petit peu et vous allez voir que ça marche pas leur affaire. Du tout. Les vérités absolues n'existent pas. Est-ce que vous êtes absolument sûr de cela? La vérité ne peut pas être connue. Comment est-ce que vous connaissez ça? Pense un peu. Et ça, c'est le genre de choses que même les professeurs dans les écoles vont dire aujourd'hui. Et juste avec un peu de logique, on peut voir que ce sont des phrases autodestructeurs. La vérité existe. La vérité est absolue. Et comment est-ce qu'on peut découvrir la vérité concernant Dieu? Il y a trois choses que je vais mentionner, parce que je crois, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens vont croire en Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi vous croyez en Jésus. Il y a différentes raisons. Mais si vous croyez en Jésus juste parce que votre grand-mère a dit que Jésus est le Fils de Dieu, peut-être votre foi n'est pas basée sur quelque chose d'assez solide. Peut-être vous ne serez pas capable de répondre à quelqu'un, « Oui, mais pourquoi est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez une raison pour votre foi? » La foi n'est pas aveugle. Pourtant, on pourrait étudier qu'est-ce que certains scientifiques croient. Les gens qui se disent athées, qui croient à l'évolution. Et laisse-moi vous dire, ça prend beaucoup plus de foi d'être athée et d'être quelqu'un qui croit à l'évolution que de croire en Dieu. Parce que l'évidence pour Dieu est beaucoup, beaucoup plus volumineuse que l'évidence pour le contraire. Amen. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour connaître la vérité concernant Dieu? Numéro un, il y a trois choses. Numéro un, c'est l'observation. Observation. Tout le monde dit observation. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir nos yeux, on peut observer, et selon la Bible même, ici, c'est marqué Romains 1, 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient. Se voient comme à l'œil, depuis la quoi? Depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. On a juste à ouvrir les yeux, et on va parler de ça dans une minute, et observer la création de Dieu, et on peut savoir qu'il y a une évidence que Dieu existe. La deuxième chose, et moyen par laquelle on peut connaître la vérité concernant Dieu, c'est qu'est-ce qu'on appelle induction. I-N-D-U-C-T-I-O-N. On peut faire les inductions. Ce n'est pas tout à fait une déduction. Une induction, c'est une conclusion tirée des observations spécifiques. Exemple. Ici, je peux observer et je peux faire une induction que toutes les lettres sur cette page sont noires. Ça, c'est une induction. C'est une conclusion que j'ai tirée d'une observation spécifique. J'ai observé spécifiquement que toutes les lettres sur cette page sont noires. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? C'est une vérité absolue, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à dire non, c'est pas vrai? Mais c'est peut-être noir pour vous, mais c'est pas noir pour moi. Vous savez? On peut dire, on peut prendre un livre. Quelqu'un a un livre ici? Ici, il y a un livre de Billy Joe Darity, un bon pasteur en Oklahoma. Et on peut dire ceci, exemple. Tout livre a au moins un auteur. N'est-ce pas vrai que tout livre a au moins un auteur? Cette vie nouvelle est un livre. C'est-à-dire que ce livre a été écrit par au moins une personne. Ça, c'est une induction. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Et je peux être absolument certain que ce livre a été écrit par au moins une personne. Mais comment est-ce que vous pouvez être dogmatique comme ça? Parce que c'est une induction, c'est une conclusion que j'ai tirée d'une observation. C'est un livre, je sais que chaque livre doit être écrit par au moins une personne, donc ce livre-là a été écrit par au moins une personne. Vous êtes dogmatique? Oui, très. Amen. Mais si je dirais, ça c'est le meilleur livre du monde, ça c'est mon opinion. Et ça, ce n'est pas une vérité absolue. Si je dirais, il faut absolument que vous lisiez ce livre-là, non. Ça, c'est mon opinion aussi. Mais regarde bien. Induction, une conclusion tirée des observations spécifiques, comme Thomas a fait. Ce n'était pas la meilleure façon de venir à cette conclusion, mais quand finalement Thomas a mis son doigt dans le trou de la main de Jésus, quand il a mis sa main dans son côte, il a dit, « Ah, mon Seigneur et mon Dieu! » Il a fait une induction, n'est-ce pas? Il est venu à la conclusion que Jésus était son Seigneur et son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a observé certaines choses. Et moi, je suis convaincu que si une personne est honnête intellectuellement avec lui-même, et il est capable d'ouvrir ses yeux et sans préjugés, examiner toute l'évidence qui est devant nous et observer toute l'évidence pour Dieu et pour Jésus et même pour la validité des Écritures, les gens vont répondre et vont avoir la bonne conclusion que oui, Dieu est vivant. La parole de Dieu est inspirée de Dieu et Jésus est le Fils de Dieu. Numéro 3, la troisième façon qu'on peut découvrir la vérité concernant Dieu, c'est un peu plus abstract, mais c'est quand même très important, c'est qu'est-ce qu'on appelle révélation. On peut avoir une observation, une induction, mais aussi Dieu nous donne les révélations. Mais qu'est-ce que Dieu nous révèle ne contredit pas qu'est-ce qu'on a observé et les inductions sont... L'induction et la révélation ne se contredisent pas. Verset 15 de Matthieu 16, « Diez-vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, on sait que même des personnes, c'est pourquoi on a des personnes brillantes, des scientifiques, des érudites, qui sont capables de regarder l'évidence et observer toute l'évidence pour la réalité de Dieu, mais ils ferment quand même leurs yeux. Ils ont besoin d'une révélation aussi de l'Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais trouver l'équilibre entre avoir un intellect qui est ouvert et qui est bien instruit, mais aussi avoir un cœur qui est réceptif à l'inspiration de Dieu et à la révélation de l'Esprit. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que Dieu nous révèle les choses par son Esprit, mais premièrement, il nous a révélé les choses dans sa parole. Et on va parler de cela la semaine prochaine. On va voir comment et pourquoi nous avons confiance que la Bible que nous avons, c'est une révélation de la vérité concernant Dieu et concernant Jésus-Christ, et pourquoi on peut lui faire confiance. Est-ce que ça vous intéresse? On peut parler pendant des heures de toutes ces choses, mais comment découvrir la vérité, observation, induction et révélation? Quelle évidence peut-on observer? On va donner quelques exemples. En fait, je vais vous donner cinq domaines où on peut trouver de l'évidence, cinq places où on peut observer les choses concernant Dieu qui devraient nous amener à la conclusion que Dieu existe, qu'il est vrai. Premièrement, numéro un, et comme je dis, je pourrais parler pendant deux heures de temps sur chaque point, mais je vais juste vous donner un petit aperçu. Numéro un, il y a une évidence cosmologique. On regarde le cosmos, on regarde l'univers, on regarde les étoiles, les planètes, la galaxie, on voit la création de Dieu, tout ce que Dieu a créé, et qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce que les scientifiques, je parle pas de la religion ici, je parle pas de la Bible, qu'est-ce que les scientifiques, même des personnes qui se disent athées, qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est que l'univers, ça c'est la réponse dans vos notes numéro un, l'univers avait un commencement et une cause. Il est prouvé que l'univers a commencé. Et vous savez comment ça a été prouvé par les scientifiques qui croyaient que l'univers était statique et que l'univers n'avait pas de commencement, que l'univers était éternel. Mais il y avait un problème. Même Einstein, au moment donné, il a découvert dans ses calculs, il commençait à voir que non, ça ne peut pas que l'univers soit constant et statique. L'univers avait un commencement, mais il a même avoué que cette vérité l'irritait. Il était irrité par cela. Il n'était pas content de ce qu'il trouvait. Et même, il a faussé un peu ses calculs pendant un certain temps, juste pour dire, « Oh, mais tu sais, il y avait quand même une marge d'erreur ici. » Mais il a été trouvé quelques années plus tard. Il a divisé par zéro, une chose qui ne se fait pas. En fait, en anglais, il appelait ça le « fudge factor ». Le facteur de « fudge », c'est que... facteur d'erreur. Mais finalement, il a avoué non, ça se peut pas. Donc, son théorie de relativité aujourd'hui est acceptée par les scientifiques et tout le monde est en train constamment à découvrir que oui, effectivement, qu'est-ce qu'on appelle le Big Bang? Vous avez entendu parler du Big Bang? Le Big Bang, c'est vrai. Sauf que le problème, c'est que beaucoup de gens, ils vont juste arrêter au Big Bang, mais ils n'ont aucune explication d'où venait le Bang. Tandis que nous savons que le bang, c'est pas compliqué. Dieu a dit que la lumière soit et bang! La lumière fut. Et boum, l'univers a commencé. Et moi, je suis pas un scientifique, hein. Il y a des personnes qui pourraient peut-être enseigner ce message mieux que moi ici. Si mon frère était là, mon frère est un scientifique vrai. Lui, il lisait Einstein à l'âge de 12 ans. Vraiment. Mais moi, je connais pas ces choses plus que ça, mais je sais lire. Et je sais, et je connais, comme je dis, mon grand frère, il est un vrai scientifique. Mais laisse-moi vous dire que c'est prouvé encore et encore et encore. Toute l'évidence démontre qu'il y avait un commencement à l'univers. Et la science sait que chaque chose est causée. Chaque chose qui est devenue quelque chose était causée par quelque chose. Donc, les gens ne sont pas prêts à avouer que c'est Dieu, mais tout dit que, cosmologiquement parlant, l'univers avait... On peut parler pendant une heure, mais on attend une heure pour ça. Il y a une autre chose. Qu'est-ce qu'on appelle une évidence téléologique? J'ai mis ce mot là-dedans juste pour le fun, parce que c'est un vrai mot. C'est dans le dictionnaire Larousse, si vous ne le croyez pas. Ça vient de le mot grec téléo qui veut dire dessin. Et qu'est-ce qu'en fait l'évidence téléologique dit? C'est que chaque chose qui a un dessin a forcément quelqu'un qui a fait le dessin. N'est-ce pas? On se promène dans les bois et on découvre une montre Rolex dans la forêt avec des diamants et de l'or, et c'est une belle montre Rolex. Qu'est-ce qu'on va penser? Oh, wow! Il y a des arbres ici qui... Ah, oh, il y a des montres qui poussent sur les arbres ici. Ou est-ce qu'on va dire, oh, n'est-ce pas intéressant? Oh, ça doit être en effet de l'humidité et l'herbe et quelque chose s'est passé. Et puis, il y a une montre. Ça doit être la pluie qui a causé ça. Non, on va dire... Parce qu'on trouve une montre, et une montre, et c'est pas mal complexe, n'est-ce pas? On va dire, oh, il y a un homme qui a fait cette montre. Mais vous êtes pas mal dogmatique. Oui, je suis dogmatique. Un homme a fait la montre. C'est pas apparu de même. C'est pas juste un effet de nature. Vous êtes d'accord? Mais savez-vous que il y a des personnes qui regardent la planète Terre et téléologiquement parlant, ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes parce que le dessin de l'univers est tellement complexe. La distance entre les planètes, tout ce qui se passe dans notre univers est tellement, tellement complexe qu'il est impossible que ça existe comme ça sans avoir quelqu'un, une intelligence en arrière de cela. Il y a une intelligence en arrière du dessin complexe de la création, numéro 2. Numéro 3, on a qu'est-ce qu'on appelle le principe anthropique. Et ça, ça vient d'un mot, comme vous avez entendu parler de l'anthropologie, anthro qui veut dire humain. Et le principe anthropique nous dit tout simplement que la capacité de la planète Terre de soutenir la vie humaine, dans vos notes, numéro 3, la capacité de la Terre de soutenir la vie humaine ne peut pas être le résultat du hasard. Il est absolument impossible. C'est tellement complexe. Dans tout l'univers, ils ont fait les calculs, et même s'il y avait des milliards de planètes qui existaient, la chance qu'il y ait une autre planète avec les mêmes éléments qui sont dans la même quantité, la même proportion que nous avons dans notre atmosphère, sur notre la planète Terre, la chance que ça existe ailleurs, c'est zéro. Il n'y a aucune possibilité. C'est trop complexe. Vous savez, on a juste exactement la bonne quantité d'oxygène dans l'air. Un peu plus, et on aurait les feux instantanés. Un peu moins, on ne respirait plus. La gravité est exactement la bonne mesure. Un peu plus, trop. Un peu moins, ça ne marche pas non plus. La distance entre nous, la planète Terre et le Soleil, juste une fraction de différence. Un peu plus proche, on serait tous brûlés. Un peu plus loin, on serait tous gelés. Et là, je peux aller encore et encore et encore et encore. Et même scientifiquement parlant, ils ont prouvé que la chance que ça arrive juste par hasard, c'est ridicule. C'est ridicule. Il y a quelqu'un qui a créé cette planète. Il y a quelqu'un qui a créé la Terre. Il y a une intelligence, n'est-ce pas? Numéro 4, on a aussi une évidence biologique. Le mot bio veut dire vie. La vie ne consiste pas seulement du matériel et elle est trop complexe de ne pas avoir un auteur. Vous savez, les personnes qui croient que tout à coup l'univers a explosé, il n'y avait pas vraiment une cause. L'univers a explosé. Et vous connaissez ceux qui croient à l'évolution, ils croient qu'il y avait des formes de vie qui ont commencé, peut-être dans un étang quelque part. Une petite espèce d'une cellule qui a évolué et devenu un peu plus complexe, un peu plus complexe, et finalement on est là. Wouh, j'ai commencé dans un étang. Mais savez-vous que même si vous savez c'est quoi une amibe? Est-ce qu'on dit amibe ou amiba? Une amibe. J'ai lu cela, je trouve ça bien intéressant. Le ADN d'une amibe contient de l'information qui équivaut le texte de 1000 dictionnaires. Juste une amibe, si on peut lire le ADN, je pense que c'est ADN, c'est DNA en anglais. Si on peut prendre, parce que vous savez qu'il y a des lettres là-dedans, si on mettrait tout cela ensemble, le message, ça, l'information là-dedans, ça pourrait remplir 1000 dictionnaires. Juste dans une petite créature d'une cellule. Oh, mais ça, c'est juste par hasard, n'est-ce pas? Laisse-moi vous dire que ça prend beaucoup plus de foi, de croire que, poum! Oh, ben, regarde ça. Une amibe, c'est un animal, on pourrait dire une a single cell creature. C'est une créature, juste un homocell, monocellulaire. Merci. C'est une créature monocellulaire. On pourrait mettre dans un espace d'une pouce une centaine des amibes. Ils sont tellement, tellement petits. C'est comme la créature la plus simple qui existe sur la planète. Et la créature la plus simple qui existe sur la planète est tellement complexe. Pourquoi? Parce que celui qui l'a créé a de la sagesse qui dépasse notre capacité de comprendre. Amen? Donc, il y a aussi, et laisse-moi vous dire, comme j'ai dit, la vie ne consiste pas seulement du matériel, c'est pas juste du matériel. Les gens aujourd'hui sont enseignés que tout ce qu'on voit, c'est le résultat de, c'est juste par hasard. Naturellement, les choses ont évolué. Vous posez une question. Un jeune homme arrive, on va dire qu'il s'appelle Jacques. Jacques arrive à la table le matin, il est fatigué, il se lève, un peu tard, il va aller manger ses céréales. Oui, ses céréales préférées, c'est les alphabets. Vous savez c'est quoi les alphabets? Hein, les lettres. Mais là, il arrive et devant lui, sur la table, il voit que la boîte est renversée, mais il y a des mots qui sont formés par ces céréales. N'oubliez pas de sortir la poubelle. Maman. Mais lui, il n'a pas vraiment le goût de sortir la poubelle, donc il va dire, mais tu sais, selon qu'est-ce que mon professeur à l'école m'a dit, que tout ce qui se passe dans la vie, c'est vraiment le résultat du hasard, donc c'est juste une coïncidence. Quelqu'un a renversé la boîte des céréales, c'est juste une coïncidence, donc de toute façon, c'est l'été, je veux aller m'amuser, je vais aller à la plage aujourd'hui parce que, Becky va être là et il aimait Becky et son ami Tammy aime Becky aussi et il veut être là avant que Tammy arrive. Mais en arrivant à la plage, il voit il y a dans le sable, il y a un cœur qui est tracé dans le sable et c'est marqué Tom aime Becky. Et il dit oh, wow, bon mais ça doit être les vagues qui ont fait ça, hein? Les vagues, ou peut-être il y a des coquilles, je ne sais pas, wow, c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Et puis, regarde, il voit Tom et Becky marcher ensemble, et il ne veut pas croire qu'il y a des émotions l'un pour l'autre. Tu comprends? C'est ridicule, n'est-ce pas? Mais ça, c'est exactement ce que les scientifiques sont en train de faire aujourd'hui. Le message est écrit dans le sable. Le message est tellement clair. Que l'univers et la création, il y a un créateur en arrière de tout cela. Amen. Il y a une autre chose, numéro 5, qui nous montre qu'il y a un créateur et qu'il y a une évidence pour Dieu, c'est l'évidence philosophique qui, on pourrait dire, la philosophie par laquelle les hommes vivent sur la terre. Vous savez que ça, c'est pas juste le résultat d'une amibe qui a évolué. le fait que nous avons dans le cœur, le fait que nous avons qu'est-ce qu'on appelle la loi morale. Même peu importe quelle religion que vous avez, la plupart des gens dans le monde savent qu'il n'est pas normal, c'est pas correct de tuer une autre personne. Quelqu'un qui tue ses propres enfants, c'est quelque chose dans le cœur qui dit que c'est pas correct. Il y a la loi morale. D'où est-ce que ça vient? Il y a des personnes qui vont dire, oh, mais tu sais, c'est juste, ça a évolué aussi. Les morales ont évolué. Il y a certaines combinaisons des gènes qui ont fait en sorte qu'il y a certaines personnes qui ont des bonnes morales, il y a d'autres qui n'ont pas des bonnes morales. Oh, dans ce cas-là, Hitler était complètement innocent. C'est pas de sa faute. Il avait des mauvaises gènes. Non, il y a une loi morale parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Juste ça, ça montre que la vie est beaucoup plus qu'une amie évoluée. Mais pourquoi les gens, et on va poser cette question, pourquoi les gens n'acceptent pas la vérité? Si c'est tracé dans le sable, si le message est clair, Tom aime Becky, pourquoi est-ce qu'on refuse de croire le message? Si c'est marqué, n'oubliez pas de sortir la poubelle, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas croire à cela? Quelles sont les raisons? Là, je vais vous donner juste trois raisons pour lesquelles les gens n'acceptent pas la vérité. Premièrement, il y a des problèmes intellectuels. Je n'ai pas dit qu'ils ont des déficients, ils sont déficients intellectuellement, mais ils ont des problèmes intellectuels dans le sens qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas avec la tête. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Soulignez cette phrase, aveuglé l'intelligence. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il y a des personnes qui ont des problèmes intellectuellement dans le sens que si c'est vrai que Dieu existe, si il y a un créateur, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal dans le monde? Si Dieu est vrai, pourquoi est-ce qu'il permet les guerres? Pourquoi est-ce qu'il permet la souffrance, et ils sont bloqués intellectuellement par certaines choses. Ils ont des vraies questions, des bonnes questions, qui ont besoin des bonnes réponses. Mais s'ils pourraient connaître la vérité c'est que Dieu est bon, la vérité c'est que c'est Satan le voleur qui ne vient pour détruire, et égorger, et voler, c'est Jésus qui est venu pour donner la vie avec abondance. Et que toutes les choses qu'on voit dans le monde qui ne sont pas bon, qui ne sont pas corrects, toute la souffrance, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Dieu de ce siècle, le Satan, qui a aveuglé les yeux des gens. Amen? Dieu est bon. On a juste à regarder encore la création, voir toute la bonté qu'il nous a donnée. Il y a aussi les problèmes émotionnels. Numéro 2, les problèmes émotionnels. C'est quoi un problème émotionnel? Je ne dis pas que les gens ont des problèmes émotionnels selon le monde, mais émotionnellement, ils ont un problème à accepter la vérité. Quand on dit, exemple, que Jésus est le seul et unique moyen d'aller au ciel, émotionnellement, ils ont un problème avec ça. Quand on dit qu'il y a une réalité du ciel et une réalité de l'enfer, les gens, émotionnellement, ils ont un problème parce qu'ils n'aiment pas l'idée qu'un homme ou une femme peut passer l'éternité séparée d'avec Dieu et dans la souffrance. Et on a de la difficulté avec ça. Mais c'est quand même vrai, n'est-ce pas? Et on ne peut pas laisser les émotions. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi? Même là, la Bible dit clairement que l'enfer, les temps de feu ont été créés pour Satan et pour ses anges, et non pas pour l'être humain. C'est l'être humain qui a commis la trahison et qui est maintenant devenu la propriété de Satan. Et c'est pourquoi il va aller à l'enfer, à moins qu'il accepte Jésus. Vous êtes là? Numéro 3. Et voici, je crois, le plus grand problème pourquoi les gens n'acceptent pas la vérité. Il y a des problèmes volitifs ou les problèmes de la volonté. Tout simplement dit, les gens ne veulent pas croire la vérité. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas croire la vérité? Pourquoi est-ce que Jacques, en lisant, n'oubliez pas de sortir la poubelle, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu croire que c'est sa mère qui a laissé le message? Parce que dès qu'il a avoué, « Oui, maman, je reconnais ton écriture dans les céréales. Je sais que ça se peut pas que la boîte des céréales est tombée par hasard, que le message si clair est juste le résultat de nature. Je sais, maman, que tu m'as laissé un message. » Dès qu'il avoue, dès qu'il accepte
que sa mère lui a laissé le message et devienne redevable envers sa mère. Quand ils reviennent à la maison, et maman dit, « Jacques, pourquoi est-ce que tu n'as pas sorti la poubelle? » Il dit, « Oh, mais maman, c'est toi qui as fait ça? Oh, je pensais que c'était juste la nature. Oh, je m'excuse. » Non, la Bible dit, ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Maman, est-ce que vous allez croire ça quand votre enfant dit, « Oh, mais... désolé, maman. Prochaine fois que vous écrivez une note sur papier, vous dites, n'oubliez pas de sortir de la poubelle. » Et dit, oh, mais maman, je savais pas que c'est toi qui l'as écrit. Je pensais que c'est juste arrivé de même. C'était le résultat de l'évolution. Mon stylo a évolué. Et a écrit le message. Je suis désolé, maman. Combien de personnes devant le trône de Dieu vont dire les choses de même? « Oh, mais Seigneur, je ne savais pas que c'est vraiment toi qui es Dieu de l'univers. Je ne savais pas que tu existais. » Non, le vrai athée, moi je crois, le vrai athée n'existe pas. Le vrai athée n'existe pas. Le problème, c'est un problème de volonté. On ne veut pas croire que Jésus est le seul et unique sauveur du monde parce que là, on est responsable devant lui. Regarde bien, il y a un verset qui parle de cela. En Romains 1, 25, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. » Jérémie 7, 28 nous montre encore ce problème de volonté. « Alors, dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir l'instruction. » La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Ça, c'est une bonne description de notre génération d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Les gens ne veulent pas recevoir l'instruction. Les gens ne veulent pas examiner avec un cœur ouvert l'évidence que Dieu existe. Ils ne veulent pas vraiment examiner l'évidence que le Nouveau Testament et les Écritures sont vraiment inspirées de Dieu et que c'est Dieu qui nous parle. Il veut pas vraiment examiner l'évidence et tirer la conclusion avec honnêteté que Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu et il est le Fils de Dieu. Il est le seul et unique sauveur du monde. Ils veulent pas. C'est pourquoi on a besoin de prier pour eux, que les yeux soient ouverts, pour qu'ils puissent avoir une révélation dans leur cœur de qu'est-ce que la Bible dit, de qui Jésus est, de qu'est-ce qu'ils sont supposés de faire. Pour terminer aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut croire à la vérité? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste dire, « Oh, mais écoute, je ne veux même pas penser à ça. » Trop tard. Il est trop tard. Désolé, mais il est trop tard. Vous savez déjà trop. Vous avez déjà vu dans les films, des criminels qui disent, « Désolé, mais tu sais déjà trop. » Laisse-moi vous dire, Dieu, avec son amour, pas avec un fusil à votre tête, mais avec les bras grandement ouverts, il dit, désolé, mais vous savez déjà trop. Parce que la première fois que vous avez ouvert vos yeux et vous avez reconnu jusqu'à quel point la création est complexe et merveilleuse, il y a quelque chose dans votre cœur qui témoignait, qui disait, oui, il y a un Dieu, il existe, il est vrai. Désolé, mais c'est trop tard. La vérité, numéro un dans vos notes ici, c'est que l'évidence exige une réponse. L'évidence exige une réponse. On ne peut pas juste dire, j'abstiens, je refuse de passer jugement. Dieu dit non, déjà trop tard. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Ils sont donc inexcusables. Et finalement, numéro 2, pourquoi est-ce qu'il faut croire à la vérité? C'est parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences attachées à nos croyances. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous savez que quand nous sommes face à face avec la vérité, et on regarde la vérité droit dans ses yeux, si vous voulez, on est exigé de prendre une décision. Et vous allez voir dans les semaines à venir, surtout la semaine prochaine et dans 2 semaines, quand on va parler de la divinité de Jésus-Christ, vous allez être frappé et droit devant vous, vous allez avoir une évidence si claire que vous aurez juste 2 options. soit de recevoir ou soit de rejeter la vérité. C'est là où on est aujourd'hui. On vit dans un monde aveuglé, un monde qui ne veut pas croire. Mais moi, je crois que nous, l'Église de Jésus-Christ, nous allons changer cela. Pourquoi? Parce que premièrement, nous allons être un bon exemple. Nous allons vivre devant eux cette vie glorieuse. Ces femmes qui sont tellement en feu, suite à leur conférence, vont continuer à brûler devant le monde. Et les gens vont dire, c'est quoi qui se passe? Vous êtes différents, vous êtes changés. Ils vont témoigner. Les gens vont voir notre amour, ils vont voir nos bonnes œuvres, comme la Bible dit. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu, votre Père. Moi, je pense qu'on peut faire des choses pour aider à donner le goût aux gens de connaître Jésus. Et on sait que si on vit cette vie d'amour et si on vit avec la puissance de l'Esprit et Dieu confirme sa parole avec des signes, des miracles, des prodiges, que les gens qui voient, il y a beaucoup qui vont croire. Moi, je suis là aujourd'hui pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espérance pour notre ville, pour notre province, pour la francophonie. Amen. On va se lever debout, on va prier. Il est midi et je vais terminer là. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Ce soir et cette semaine, dans les groupes d'impact, vous allez pouvoir en parler davantage. Le message est clair. Ce n'est pas sortir de la poubelle, c'est ouvrir votre cœur, recevez Jésus. Avec les yeux fermés, vous savez qu'à chaque dimanche matin, j'aime donner cette invitation à tous ceux et celles qui sont ici. Si vous ne savez pas à 100% que vous avez vraiment ouvert votre cœur à Jésus, si vous n'avez jamais dit comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu, aujourd'hui c'est votre jour. » Je vous ai donné juste un peu d'évidence, mais en réalité, je vous ai déjà donné assez d'évidence pour recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je vais vous donner plus dans les semaines à venir, mais déjà, vous savez déjà trop. Père, je prie pour chaque homme, pour chaque femme, qu'on puisse, avec honnêteté, ouvrir notre cœur à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, « Pasteur, moi, je sais dans mon cœur que j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. J'ai besoin d'accepter, de reconnaître que le message, ça vient vraiment de Dieu. » Pas le hasard. Je ne suis pas ici par hasard. Dieu m'a créé. Et Dieu m'a créé pour une raison. Et je veux réaliser ma raison d'être ici sur la terre. Je veux faire sa volonté. Je veux vivre pour Jésus. Je suis avec tous les yeux fermés. Est-ce que quelqu'un qui lèverait la main en disant, oui, Pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus ce matin. Je suis levé la main. Est-ce que quelqu'un ici qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Soyez pas gêné. Que Jésus a dit ceci, si tu me confesses devant les hommes, écoutez ceci, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est au ciel. C'est quand même assez sérieux. Ce matin, est-ce que quelqu'un, vous n'avez pas aujourd'hui l'assurance d'avoir donné votre vie à Jésus, mais vous pouvez aujourd'hui le faire. Je te lève la main, est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être si le monde ici l'a déjà fait, je ne sais pas, mais sinon, ne soyez pas gênés. Deuxième invitation, peut-être vous êtes déjà sauvé, mais vous avez besoin de reconsacrer votre vie à Jésus, parce que vous vous êtes éloigné de lui. Ou peut-être vous êtes là et vous êtes sauvé, vous savez que vous avez la vie éternelle, mais vous n'avez jamais eu l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit, comme c'est marqué en Actes 2:4. Ils se sont remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Laissez-moi vous dire que c'est en étant rempli de l'Esprit que vous allez recevoir la puissance dont vous avez besoin pour être un témoin puissant et efficace, pour pouvoir aider les gens à connaître la vérité. Est-ce qu'il y a des gens sur ces invitations-là? Vous avez besoin de reconsacrer votre vie, vous avez besoin d'être baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence par les langues, juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia! Il y a une personne. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Quelqu'un d'autre? Soyez pas gêné. Moi, j'ai à cœur de prier avec cette personne qui a levé sa main. Alléluia. Je sais pas si c'est pour le baptême du Saint-Esprit. Moi, je vais juste t'inviter à venir ici en avant. Si vous voulez, je ne veux pas t'embarrasser, mais je serai peut-être bien quand même. Alléluia. Merci, Père Céleste. Alléluia. On va prier avec cette personne. Alléluia. Gloire à toi. S'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de venir, on va juste prendre une minute. On va attendre. Je crois que le Saint-Esprit parle à votre cœur ce matin. Il vous appelle à prendre une décision. À venir. Alléluia. Alléluia. Venez. Parce que vous venez ce matin, ça ne veut pas dire que vous avez tourné votre dos au Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans un gros péché, mais vous ressentez votre besoin aujourd'hui de reconsacrer votre vie à Jésus. Ou peut-être, comme j'ai dit, vous avez besoin de cette puissance, d'être baptisé du Saint-Esprit. On a des personnes ici qui sont prêtes à prier avec vous. Alléluia. Alléluia. On va prier tous ensemble avec le monsieur qui est venu ici, avec les conseillers. On va prier ceci. Merci, Père. Au nom de Jésus. Que la vérité nous a franchis. Aujourd'hui, j'accepte et je crois la vérité absolue. Tu es la vérité et je t'aime de tout mon cœur. Merci Seigneur, je veux recevoir tout ce que tu m'as donné. Je veux recevoir toutes les bénédictions que tu m'as promis, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur?